fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd proche dans la brise? C'est comment le noir secret de mon tourment, à son tour l'ombre se demande. Je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Bonjour les amis. Eh bien, ce matin, j'étais incapable, ni hier d'ailleurs, d'écrire un édito cette semaine. Ce sont les bouleversements du monde qui me traversent et je sens que tout fout le camp. Les guerres surgissent violemment et se multiplient. Ça accapare les esprits et les divergences de pensée. On commence à beaucoup discuter, mais c'est pas nous qui faisons tourner le monde. Et ce qui paralyse, semble-t-il, aussi les chefs d'État, qui, eux, devraient être capables de réfléchir à autre chose que le profit et le fait qu'il faille de l'argent pour pouvoir diriger un pays, ça, ils le savaient, en faisant leur campagne, déjà. Et même un enfant le comprendrait. Mais depuis quelque temps, j'ai le sentiment qu'ils ne dirigent pas, qu'ils se promènent, qu'ils font les ponts, qu'ils se retrouvent partout les uns les autres, qu'ils discutent. Ils ne sont jamais d'accord, mais ils s'en foutent. Ils disent à la prochaine réunion. Voilà. Et pendant ce temps-là, bah, ils grattent de tous les côtés, surtout les pauvres, et les femmes, et les étudiants. Ah, c'est tellement plus facile. Et pendant ce temps-là, ils font des cadeaux magnifiques, par exemple aux Qataris qui n'ont aucun impôt pour venir en France, à qui on ne demande rien, c'est tout juste si on ne les subventionne pas. Enfin, c'est ahurissant. Est-ce que c'est juste pour aller passer un week-end quand on veut, pour le chef de l'État? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la débâcle. Hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que ma colère est grande et pas très fructueuse, j'en suis bien consciente. Donc les amis, on va se rabattre sur... Non, j'en reparlerai un peu, mais on va s'accrocher quand même à l'art et aux hommes de bonne volonté. Musica.
Retrouver avec moi le paradis. Christophe et Arnaud, les paradis perdus. Vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Ben merci Fabien pour le choix de ta chanson là, parce que c'est moi, ça me bouleverse complètement cette histoire des Palestiniens qui avaient un pays qui s'appelait la Palestine et qui est vraiment maintenant un paradis perdu parce que on veut plus d'eux chez eux, c'est horrible. Et c'est toute l'histoire qui déclenche cette guerre épouvantable. Et on avait un peu mis un voile sur nos yeux et des bouchons dans nos oreilles pour ne pas en entendre parler, parce que c'était tellement compliqué et ça dure depuis tellement longtemps que ben voilà, ça a pété cette fois. C'est vraiment... une catastrophe ce qui se passe là-bas, parce que pousser les Palestiniens à quitter leur terre, c'est une façon d'en finir avec eux, c'est le rêve des Israéliens, évidemment. Et maintenant, leur dernière trouvaille, c'est de dire aux Égyptiens, bah, prenez-les chez vous, comme ça on sera tranquille. Mais l'Égypte n'est pas d'accord, et puis ils ont raison, pourquoi chasser les Palestiniens de Palestine? Il n'y a pas vraiment de raison. Et les pousser à quitter cette terre, c'est une façon de les effacer pour profiter pleinement de leur pays, donc d'en finir avec la cause palestinienne, qui est quand même une vraie écharde dans le talon du peuple juif. Alors l'Égypte refuse donc fermement d'être une terre d'accueil pour les déplacés de Gaza et de Palestine, pour des raisons de principe, hein, évidemment. Et puis d'ailleurs, le Caire est soutenu par les capitales arabes, comme par les groupes armés palestiniens et la population égyptienne, la Jordanie, etc., veulent tous... la Jordanie, pourtant, il y a une population majoritairement palestinienne, mais ces pays ne peuvent plus non plus assimiler tous ces gens qui sont chassés sans arrêt. Donc il y a des manifs géantes là-bas aussi. Ah, c'est vraiment dramatique parce qu'on a l'impression que cette histoire, elle est pas terminée et puis qu'elle sera pas pour demain non plus. Les journaux en parlent pas mal, mais c'est vrai que c'est pas très simple, parce que le seul pays arabe frontalier de Gaza, qui est aussi le premier signataire d'un accord de paix avec Israël, c'est l'Égypte, qui a vraiment réagi très très vite à l'intention d'Israël de déporter les 2,3 millions d'habitants de Gaza vers le Sinaï. C'est quand même dingue de penser que des gens disent, ben voilà, vous prenez ces millions de gens comme si c'était, je sais pas, des bouts de bois, des n'importe quoi. Mais c'est ahurissant de voir comment se comportent les Israéliens. Moi, je suis horrifiée par leur attitude. Et pousser les Palestiniens à quitter leur terre, c'est une façon d'en finir avec la cause palestinienne, aux dépens des pays voisins, évidemment, c'est pratique. Hein. Donc c'est horrible. Le chef d'État égyptien a donc tracé une ligne rouge infranchissable, ce qui ne va pas arranger les choses. Mais est-ce qu'on veut que ce soit arrangé? En tout cas, pas de cette façon-là. Hein. Et puis, il y a aussi une myopie occidentale, parce que les images quotidiennes... des frappes incessantes de l'armée israélienne, de la dévastation de Gaza et des souffrances des habitants font monter la colère du monde arabe contre ceux qui laissent faire, et les pays occidentaux qui affichent un soutien constant à Israël sont considérés comme complices de la brutalité que frappe la population gazaouie. Voilà, mais on n'est pas très heureux d'être aussi dans cette attitude. Donc, on va pas se mortifier non plus, mais franchement, je trouve que c'est une époque terrible. Pour eux, bien sûr, mais pour nous, parce que c'est indigne, c'est je ne sais pas comment dire. Je ne sais vraiment pas comment dire, parce que ça me bouleverse et j'arrive même plus à manifester mon chagrin, ma peine, ma révolte... à ces situations où un pays est chez lui et puis tout d'un coup l'Europe, le monde entier décide qu'un peuple va venir prendre sa place et puis voilà, il la grignote depuis longtemps sans qu'on dise rien d'ailleurs, c'est de notre faute aussi. Et puis maintenant qu'il n'y a presque plus de, de place pour les Palestiniens, ben on voudrait les faire gicler un bon coup, quoi. C'est dingue. Comment est-ce que l'homme se comporte ? C'est une horreur. Il y a des moments où je suis contente d'être une femme. Souvent. Mais quand même, je trouve que là, on n'est vraiment pas à la hauteur. La musique va nous consoler, peut-être.
I live in this country now, I'm called by this name. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop, anywhere on this road.
Lassa Décella sur les ondes de Radio Escapade avec le titre Anywhere on this road. Vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Bon, pour changer un peu, en plus de la guerre, il y a le réchauffement de la planète et notre légèreté vis-à-vis de l'avenir devrait nous alerter. Donc moi, j'ai cherché un peu à lire des trucs là-dessus et j'avais trouvé un bouquin qui s'appelle « Nourrir le monde sans dévorer la planète ». De, je sais plus, merde, Georges Monbiot, voilà. Et c'est un journaliste anglais qui est un homme de terrain. Et bah, dans son viseur, il a carrément l'accaparement des terres et la folie de notre système alimentaire, voilà. Bah, il a appris le sens de l'émerveillement, cet homme, parce que quand même, ça existe, hein. À regarder pousser les chênes, à écouter les chants des hirondelles, à se sentir comme une herbe, un nuage ou un oiseau, dans les recoins accidentés d'un ancien terrain de golf où la nature avait repris ses droits et où enfant, lui, Monbiot, s'échappait. Et le sentiment de faire partie de cet écosystème, en observant et en éprouvant une connexion avec ce qui nous entoure quand même, eh bien, ça lui a donné envie d'écrire. Parce qu'il se souvenait que quand il était petit garçon, il avait essayé d'empêcher, par exemple, l'abattage d'un vieil arbre creux où nichait une famille de pivers. Et puis, il avait compris que même mort, un arbre est une incroyable source de vie. Ensuite, parce qu'évidemment, cet arbre a été coupé. Et quand un homme débarque maintenant avec une tronçonneuse, ben, lui, il s'accroche au tronc et il hurle « Je ne bougerai pas !» Mais son plan a une faille, parce que on les empêche, en fait. Et voilà, il n'a pas pu résister chaque fois qu'il l'a voulu, mais cette fois, il a pris la plume, voilà, pour apprendre à être activiste, comment pourrais-je dire, immobile. Enfin, immobile, dans le lieu, pas dans l'esprit. Hein. Mais quand même, il dit qu'il faut pas, on n'est pas impuissant. On l'est peut-être tout seul, mais il ne faut pas être obéissant non plus. Une de ses phrases, c'était, je crois, « Seul vous êtes impuissant, ne soyez pas trop obéissant et ne rentrez pas chez vous pour déjeuner. » Voilà, ça c'est un de ses mantras, si on veut. Bon, aujourd'hui, il a 60 ans, hein, il est devenu une des grandes voix de l'écologie en Angleterre. C'est un chroniqueur vedette du Guardian. Et il a ce flegme britannique qui lui permet d'écrire les choses et d'en parler avec tranquillité maintenant. Et pourtant, il veut que les choses changent et il fait tout son possible, comme s'il avait 8 ans. Et pour agir, il a fait, lui, des études de zoologie. Il a choisi le journalisme d'investigation. Et d'abord à la BBC, ce qui est quand même pas mal, et puis en indépendant. Voilà. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des je ne veux pas dire des problèmes ou des histoires, des causes un peu partout. Les gouvernements américains et britanniques déplacent en ce moment des populations indigènes pour coloniser la Papouasie occidentale. Et pour ça, ils font une destruction écologique énorme. En fait, ils déplacent les gens pour pouvoir piquer les bois, hein, j'imagine. L'île est interdite aux étrangers, mais ce fameux Monbiot dont je vous parle, là, c'était ce journaliste-écrivain, réussit à y pénétrer avec un ami photographe. Et après, il a fait une expédition folle. On aurait dit deux Tintin reporters, incroyablement stupides et confiants comme on peut l'être. Ils ont été arrêtés par l'armée. Ils ont survécu dans la forêt en mangeant des insectes. Ils sont retrouvés dans le coma après une attaque de frelons. Mais ils sont encore vivants et ils racontent leur histoire, leur espèce d'investigation, d'aventure pour raconter comment on peut quand même lutter, bien que ce soit au risque de sa vie, que ce soit en Afrique ou en Papouasie ou en Amazonie ou n'importe où. Enfin, il a écrit plusieurs bouquins, de toute façon, je crois. Je n'ai pas lu toute la liste. Il y a Amazon Watershed, il y a No Man's Land aussi. Et bon, tout ça, ça a une histoire commune, c'est que ça arrive aux populations qui sont pas très nombreuses. Donc on arrive à les voler, à les déplacer, à leur prendre. Enfin, c'est difficile de traiter la question écologique sans comprendre les forces sociales, évidemment. Il a fait autre chose au Brésil, aux côtés des peuples indigènes et des paysans engagés contre les grands propriétaires et l'industrie forestière et minière. Il a appris à identifier le pouvoir et que la propriété de la terre et d'autres formes de ressources naturelles est la plus importante de toutes les questions écologiques. C'est pour ça qu'en général, on vous vire de chez vous et après, on fait ce qu'on veut. Cette approche foncièrement politique est restée le fil conducteur dans son militantisme de terrain. Et parce que j'ai trouvé un petit article dessus dans un Télérama, je crois. Contre des projets immobiliers et autoroutiers, en particulier en Angleterre. Donc il a parlé de tout ça. Mais il dit quand même que la crise climatique est un élément crucial et indissociable de ce qui se passe actuellement, parce que l'atmosphère, les océans, les forêts, les sols, l'eau douce, les glaces surtout, approchent tous de leur point de basculement. C'est-à-dire qu'on va manquer d'air, d'eau, de forêts, de bois. Enfin, c'est dingue. On a tellement, tellement pillé la terre et tellement empoisonné la terre qu'on va être les premiers punis, hein. Alors, il faut des spécialistes et aussi des approches transversales pour essayer de comprendre et de voir ce qui se passe, parce que la nature ne connaît pas les limites. Celles-ci n'existent pas dans notre tête. Ne pas penser en silo, il dit, et ne jamais hésiter à penser contre soi-même. Alors, c'est difficile, hein. Quitte à choquer au sein du mouvement écolo. Parce qu'en 2011, quand il devient partisan de l'énergie nucléaire pour son impact bas carbone, tout en s'opposant aux nombreux mensonges du lobby nucléaire quand même, eh bien, il est attaqué, évidemment. Et quand il défend les nourritures sans agriculteurs, il est aussi attaqué. Enfin, on est en train de sacrifier le vivant. On a besoin d'un changement radical dans nos manières de produire notre alimentation, y compris avec l'aide de la science. Voilà, alors je voulais vous parler de son bouquin qui s'appelle « Nourrir le monde », parce qu'il y a plein de choses comme ça, qui dresse un constat implacable. Notre régime alimentaire est la principale cause de destruction de la planète. Donc il faut qu'on y réfléchisse tous, hein. Entre émissions de gaz à effet de serre, déforestation, pollution des sols et des eaux, massacre de millions d'animaux produits comme des matériaux industriels dans j'entendais parler d'un immeuble de 15 étages avec que des cochons. Non mais c'est dingue. La plus grande incidence sur la disparition des écosystèmes terrestres, c'est l'homme. C'est l'homme. Voilà, et puis ensuite... Il y a un angle mort ahurissant, c'est la vulnérabilité d'un système alimentaire qui est devenu dépendant du secteur financier. Et imaginez-vous qu'il y a seulement 4 groupes qui contrôlent 90% du commerce des céréales. Et puis 4 autres s'occupent de tout l'élevage des poulets. Enfin, c'est comme ça tout le long, voilà. Je finirai de lire ce livre, je vous en reparlerai certainement, mais... Il y a quand même des idées pionnières et en écologie, en agroécologie. Donc il y a des scientifiques qui inventent de nouvelles agricultures qui sont riches, productives, accessibles à tous, souvent bio. Et par contre, ils disent qu'il faut quand même peut-être mettre fin à l'élevage. Voilà, je vous encourage à lire cet homme qui s'appelle Monbio, c'est un anglais, et à chercher comme lui des solutions pour qu'on arrête toutes nos conneries. Musica.
have gone out of your head. Time is only mercy. Time, give me time. It's in everything we all must leave behind. If tomorrow starts today, we'd best be on our way. There's no time to waste. Only you restore my faith. Mistakes I am destined to repeat till I get them right. Walk with me into the wide open light. Walk with me into the wide open light, the wide open light. You looked at me and my skin jumped from my bones. I knew I would never be alone. Bring me your day's dust. And if you're staying here, you'll be staying with me, I trust. If tomorrow starts today, we'd best be on our way. There's no time to waste. Only you'll restore my faith. Mistakes I am destined to repeat till I get them right. Walk with me into the wide open light. Walk with me into the wide open light. Wide open. Up where it left off. Silence always picks up where it left off. If tomorrow starts today, we'd best be on our. Restore my faith. Mistakes I am destined to repeat till I get them right. Walk with me into the wide open light. Walk with me into the wide open light. The wide open light.
Wide Open Light, c'est Ben Harper sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez l'émission Dis Didier avec Isabelle.
Ouais, je continue à naviguer. C'est un article du Canard Enchaîné que je veux partager avec vous. Ça s'appelle « Le char de l'État navigue sur un volcan ». Il part d'un simple constat, ma conviction très banale, est que ce système ne peut ni se réguler ni se réformer. La crise écologique généralisée, les classes moyennes menacées par l'inévitable paupérisation, la perte du sens de la vie. Alors que faire pour éviter la catastrophe à laquelle nous courons ? La révolution ? Pouf, c'est une vieille rengaine. Et Jacques Philipponneau de reconnaître... Tant que le système satisfera globalement les besoins matériels basiques qu'il a lui-même produits, on ne voit pas pourquoi une masse critique de la population s'en détacherait. C'est vrai qu'on ne change pas grand-chose. Hein. il faut 4 ingrédients pour qu'apparaisse une crise révolutionnaire. Alors, on va les nommer, puis on verra bien où on en est. Il faut une bataille des idées, victorieuse contre l'ancien monde. Bon, ça commence. Il faut une contrainte vitale pour la majorité de la population. Ben, ça aussi, ça, c'est bien enclenché. Il faut un blocage institutionnel. Bon, ça, il n'en est pas question. Et des points de comparaison dans le passé ou le présent permettent par extension d'envisager une autre société. Donc on n'est pas encore prêt pour envisager une autre société. Dans ce recueil de lettres écrites à son ami ethnopsychiatre et révolutionnaire italien, Piero Coppo, récemment disparu, ce sont justement ces expériences collectives fondées sur la démocratie directe, c'est-à-dire l'émancipation des femmes, un autre rapport sur la nature, le refus de la société industrielle et du capitalisme et de l'État qui passe en revue pour essayer de trouver une solution. Elles ne sont guère nombreuses, les solutions. Bon, il y a eu le Chiapas qui a fait des essais, les néo-zapatistes. Là, il y a le Rojava, cette région autonome sous contrôle kurde en Syrie, qui, sous des dehors émancipés, n'est selon lui qu'énième illusion gauchiste, le pouvoir y étant concentré dans les mains d'un appareil politico-militaire extrêmement hiérarchisé. Bon, ça n'arrange pas. Il y a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas tout à fait pareil, à laquelle il reconnaît le mérite d'avoir mis sur la place publique une critique anti-industrielle systématique, auparavant confinée chez les intellectuels. Et puis au mouvement des Gilets jaunes, il trouve plusieurs vertus, notamment celle d'avoir refusé toute récupération de la part des partis et des syndicats, et d'en avoir pas, dans son immense majorité, fait du repli nationaliste, du racisme ou de l'obsession anti-immigration son cheval de bataille. Et oui, ça n'a pas marché non plus. Hein. Et de se féliciter qu'existe aujourd'hui, chez une partie de la jeunesse française, un mouvement diffus, mais croissant, que ces divers protagonistes appellent désobéissance civile, ou bifurcation, ou désertion, ou sécession, ou sabotage, ou sédition, dont la volonté est de se concentrer sur le réel et non pas sur le futur débilitant sur lequel on n'a pas de prise. Ainsi, ceux qui luttent contre les méga-bassines ou l'autoroute A69 sont certainement, eux, dans la bonne voie. Mais avec l'approche dissolution annoncée des soulèvements de la Terre, ce mouvement pourrait retourner au néant, comme l'espère à haute voix le très inspiré Darmanin. Une fois de plus, la révolution aura été évitée de justesse. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus, ça s'appelle « Au-dessus du volcan ». Et c'est l'encyclopédie des nuisances, vue par le gouvernement, évidemment. Moseka.
Her green eyes bloom goodbyes with her hair.
Jeff Buckley avec le titre Dream Brother. Vous écoutez Didi en compagnie de Isabelle.
Dream Brothers. Ah là là. Bon, moi, ça me fait penser à Zingaro, que j'ai rencontré très souvent à Nîmes il y a assez longtemps, à leur début d'ailleurs. Eh bien, Zingaro, c'est-à-dire Bartabas, hein, vient de faire un nouveau spectacle qui s'appelle Cabaret de l'exil et c'est Femmes persanes. Ne m'étonne pas qu'il se fasse attention aux femmes, cet homme-là. Avec sa troupe d'artistes, à majorité persane, Bartabas évoque cette année les sites antiques comme les actuels mollahs et les talibans. Alors voilà, je vous lis l'article de, je crois que c'était les Rama. La piste est devenue somptueux lac de sang. C'est dingue. C'est rouge. C'est pourpre royal. Et ce cercle rouge qui évoque les couleurs enivrantes et sombres du peintre Rothko, comme l'assassinat d'Agamemnon dans l'Oreste du tragique de de la tragédie grecque d'Eschyle, ben, l'intense vermillon de ces vieilles faïences persanes, comme le drapeau de l'Iran, hypnotise doucement le public attablé devant une tasse de thé sucré et un biscuit de champagne. Il sait recevoir, hein, la Mizingaro. Au moins pour les heureux spectateurs des trois premiers rangs du théâtre équestre Zingaro, au centre de la surface écarlate, ils voient une petite chaise d'école en bois et métal rouge encore, qui est abandonnée. On ne l'avait pas aperçue tout de suite parce qu'il s'est bien trafiqué les lumières. Et voilà qu'elle serre le cœur avant même que ne commence le dernier cabaret de l'exil signé Bartabas et simplement intitulé « Femme persane ». Il sait des secrets, le grand prêtre de Zingaro. Depuis 1984, le poète Centaure, de plus en plus mince, allongé et droit, raide même, au fil du temps qui fuit, il est tel une sculpture de Giacometti. Pour les chevaux comme pour les hommes, Bartabas possède l'alchimie mystérieuse des images et des songes. Ne parvient-il pas à évoquer rien que dans le silence de cet immobile lac sanglant le drame des Iraniennes, des Afghanes rejetées par le pouvoir islamiste, condamnées au voile et à l'enfermement chez soi, chassées de l'école et de toute vie sociale publique. Un art quasi surréaliste de l'association de sensations, d'émotions, d'idées, juste à travers des cavaliers et des cavalières. Il y ajoute des oies, des paons, des chevaux, d'entêtantes musiques et de ténébreuses lumières. Sans parole, autre que ses poèmes dits à voix nue. Depuis qu'il s'est mis en tête, dans ses cabarets de l'exil, de rendre hommage aux cultures vouées à l'errance. Bartabas s'est fait mage. Il étonnera toujours. Même à 66 ans, qui eût imaginé que ce fier et viril chef de bande aux hiératiques apparences macho il l'était, consacre un spectacle entier aux Iraniennes et aux Afghanes. Liberté de vivre, d'apprendre, d'aimer. Détruite, identité sacrifiée, talent massacré, Bartabas s'engage comme jamais et comme aucun de ses confrères pour la cause de ces femmes. S'entourant d'une troupe exclusivement féminine et le plus souvent persane, il y a des musiciennes, des cavalières et des acrobates, il n'apparaît quasiment pas dans cet opus qui convoque tout autant l'antique civilisation iranienne des Scythes que les régimes des mollahs et des talibans actuels. Les séquences s'y enchaînent avec une vitalité, une frénésie joyeuse, car les femmes scythes, entre le 8e avant notre ère et le 3e après, dominaient leur société de cavaliers nomades. Ah, il y a eu des moments où les femmes dominaient, c'est incroyable. Combattaient à cheval et n'hésitaient pas à prendre le pouvoir. Un matriarcat libre et fier que Bartabas figure à travers de galopantes voltigeuses armées de sabres, tandis qu'un orchestre d'instruments traditionnels égrène musique, psalmodie et chants envoûtants. Ça donne envie d'aller voir. Hein. Une cavalière de petite taille illumine la piste de sa présence enfantine et grave. Un fil de feriste à tête d'âne zèbre l'espace. Une filiforme danseuse soufie, vêtue de rouge, tourne à perdre conscience et deux gigantesques lutteuses se défient avec le feu. Autant d'artistes splendides et impressionnantes, telle cette acrobate qui pourfend les airs uniquement suspendue à un crochet par ses cheveux noirs de jais. Terrifiant et royal exploit, tandis que vont bientôt s'échiner au sol en une pitoyable course de ridicule molla. Ces images folles, glaçantes ou drôles, créent dans le beau théâtre en rond, le cirque en bois magnifié et magnifique, un climat de respect comme de complicité, de sororité envers la culture si vivante de ces femmes menacées. Alors le lac rouge n'est plus seulement inquiétant, on y voit les reflets des spectateurs attentifs, captivés, une communauté retrouvée au moins le temps d'un spectacle sans pathos, sobre, fier et pourtant gorgé d'âme. Si je vous ai pas donné envie d'aller voir ce spectacle, alors je sais plus quoi faire. Ah, salut Bartabas. Musica.
Brisa Rocher avec le titre Mystery Man. Vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Bon, mais comme on arrive à la fin de l'émission, je garderai mon papier sur le garçon et le héron de Hayao Miyazaki, parce que je pense que ce sera un plaisir pour tout le monde d'aller voir ça. Ça vient de sortir, donc. Et puis il a mis longtemps à le sortir, à l'écrire, à le faire. Donc ça va être une belle surprise, ça, j'imagine. Et puis on se retrouvera, je ne dis pas la semaine prochaine parce que je ne serai pas là. Je m'en excuse d'avance, mais je m'en réjouis aussi parce que je vais passer une semaine en Andalousie. Mais je vous raconterai parce que c'est une histoire de l'Espagne et de l'Arabie même, on peut dire, enfin du Moyen-Âge. J'aurai plein de choses à vous raconter certainement en rentrant. Alors ne m'en veuillez pas et je vous embrasse. À dans 15 jours. Merci Fabien de m'avoir accompagné et de mettre toujours exactement ce que j'attends après ce que je dis, ce qui n'est pas facile parce que tu ne sais jamais ce que je veux dire. Merci mille fois Fabien. Ciao les amis. Adios.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow,
smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.